Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Nous sommes lundi 8 décembre 2014, il est 18h. Le journal du Studio Tamani, c'est une présentation de Sira Batili. Ça y est, la quarantaine a pris fin à la polyclinique Pasteur. Parmi les personnes en observation figuraient une vingtaine de soldats de la mission de l'ONU au Mali. Après 3 semaines, ils ont été autorisés à quitter l'établissement. La société civile n'oublie pas l'origine de la fièvre Ebola à Bamako, l'hospitalisation sans contrôle d'un patient guinéen porteur du virus. Ils veulent que justice soit faite et que les responsabilités soient situées sur cette affaire. Descente dans la rue des populations de Bakaribougou en commune 2 du district de Bamako. Elles protestaient contre la mise aux arrêts de leur chef de quartier interpellé suite à une opération de désenclavement entamée dans son quartier. Exactions commises au nord du Mali, les enquêtes de la CPI avancent progressivement. L'heure est à l'identification des auteurs des crimes les plus graves. Les enquêtes ont débuté début janvier 2013. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Une vingtaine de soldats de la mission de l'ONU au Mali, maintenus en quarantaine 3 semaines à la polyclinique Pasteur de Bamako, ont été autorisés à quitter l'établissement. Aussitôt, les 2 automitrailleuses et les casques bleus qui montaient la garde devant l'établissement sont partis. Sekou Gadjigo.
Ces soldats avaient été initialement admis pour être soignés des blessures reçues dans le nord où ils étaient stationnés. Le traitement de ces blessures se poursuivra dans leur pays d'origine qui n'ont pas été précisés. Les militaires avaient été maintenu à l'isolement dans la clinique avec d'autres patients et le personnel pendant 3 semaines après la mort d'un infirmier atteint d'Ebola. Il avait été contaminé par un imam venu de Guinée voisine. L'imam a contaminé directement ou indirectement 7 personnes, dont 5 sont mortes. Ayant tous été placés sous observation, les soldats de la MINUSMA n'ont pas présenté de symptômes de la maladie. Ils ont donc quitté l'établissement, a déclaré le porte-parole de la mission. Aucune des autres personnes placées en quarantaine dans la clinique n'a développé de symptômes.
Les enquêtes de la CPI sur les présumés crimes de guerre et crimes contre l'humanité au nord du Mali vont bientôt rentrer dans une phase décisive. L'annonce est faite par le conseiller, mais en attendant, nous allons voir la réaction de la société civile par rapport à la quarantaine qui a pris fin à la polyclinique Pasteur.
À la suite de cette affaire, nous voulons que le gouvernement continue à ouvrir une enquête pour qu'il y ait un éclaircissement total sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire, nous voudrons savoir comment ce monsieur est rentré au Mali. Et il est rentré sous quel diagnostic? Est-ce qu'on a caché cette maladie aux Maliens? Qui et qui ont permis à ce monsieur de franchir la frontière pour accéder à la clinique? Voilà quelques interrogations dont nous demandons des réponses. Et ensuite, nous voulons aussi demander au gouvernement de poursuivre ceux qui ont commis cette forfaiture, cet acte ignoble, parce que c'est la vie de toute la nation malienne qui était en danger avec ce virus Ebola. Donc nous avons droit à cette information de la part non seulement de la clinique Pasteur, mais aussi du gouvernement malien. S'il n'y a pas de réelle volonté politique pour aller vers l'information dont on a besoin, nous allons prendre nos dispositions. On va se réunir et adopter la stratégie qu'il faut.
Vous pouvez donc réagir à ces informations sur la page Facebook et le compte Twitter de Studio Tamani.
Tamani.
Je vous l'annonçais dans les titres, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a informé le Conseil de sécurité le 2 décembre de sa décision de nommer l'actuel ministre tunisien des Affaires étrangères, Mwangi Hamdi, 55 ans, comme représentant spécial au Mali. Cette information a été révélée par la lettre du continent. Le compte rendu avec Modibo Mariko.
Dans sa dernière édition, la lettre du continent annonce l'arrivée de Mwangi Hamdi après les résultats du second tour du scrutin présidentiel dans son pays fin décembre. À cette date, le diplomate tunisien remplacera les néerlandais Bert Konders à la tête de la MINUSMA. Les postes étaient vacants depuis le rappel de ce dernier à la Haye et sa nomination en octobre comme chef de la diplomatie néerlandaise. Détenteur d'un doctorat d'ingénieur de l'Université de Californie Sud, Mwangi Hamdi a été préféré aux 2 candidats internes, le Béninois Arnaud Akoudjanou, actuel numéro 2 de la MINUSMA, et l'Américain David Gressley, coordinateur de l'action humanitaire des Nations Unies pour le Mali. Un moment pressenti pour les postes, l'ancien ministre belge des Affaires étrangères, Louis Michel, aurait, selon la lettre du continent, décliné l'offre. La nomination de Mwangi Hamdi, qui a déjà travaillé pour l'ONU à New York et à Genève, devrait être rendue publique avant mi-décembre.
Les populations de Bakaribougou en commune 2 du district de Bamako étaient ce matin dans la rue. Elles protestaient contre la mise aux arrêts de leur chef de quartier par des agents du CAIN de la gendarmerie. Le chef de quartier a été interpellé suite à une action entamée par les populations qui visaient le désenclavement de leur quartier par l'obtention d'une voie d'accès à la route de Koulikoro. Aux dernières nouvelles, le chef de quartier a été libéré, mais les populations restent mobilisées. C'est ce que rapporte Cheikh Tidiane Sango, porte-parole de l'association des jeunes de Bakaribougou. Il est au micro de Modibo Mariko.
Barou est enclavé. Là où nous sommes, la seule route qui traverse Bakaribougou, ça c'est la route venant de l'ex hôtel Hirondelle jusqu'à la route vers TCF. C'est la seule route. Bon, actuellement, nous on a eu un projet qui doit financer cette route. On va mettre des pavés là-bas. Mais nous on a su que ces parcelles ont été incarcérées par des individus. On a commencé le mouvement, on a mobilisé les jeunes. Maintenant, l'intéressé a venu, il a convoqué le chef de quartier. Le chef de quartier est le premier responsable du quartier. Bon, dans ce cas, nous on a dit qu'on va l'accompagner. C'est comme ça que la population est sortie. Ils ont pris les procès-verbaux. Mais là où nous sommes, ce que nous on demande, on veut que la aille au niveau du tribunal. On ne va pas faire des sittings, on va faire autre chose. Nous, on fait entièrement confiance à la justice. Parce que nous, on a un procès qui prouve que la loi qui a lotissé ce truc a été abrogée. Les parcelles-là sont été abrogées. Donc la parcelle nous appartient. C'est notre parcelle en voie d'exécution de notre droit. On va faire des bras de fer, on va rester mobilisé jusqu'à ce qu'on aura gain de cause à notre problème.
Les enquêtes de la Cour pénale internationale sur les présumés crimes de guerre et crimes contre l'humanité au nord du Mali vont bientôt rentrer dans une phase décisive. L'annonce est faite par le conseiller à la coopération judiciaire au bureau du procureur de la CPI. Pascal Tcholand est au micro de Issafa Kabasissoukou.
Suite au renvoi du Mali, nous avons décidé d'ouvrir une enquête. Nous avons décidé qu'il y avait une base raisonnable pour ouvrir une enquête. Cette enquête a commencé, comme vous l'avez dit, en janvier 2013. Elle est en cours aujourd'hui. Nos enquêteurs sont à pied d'œuvre. Ils continuent à rassembler des informations. Nous essayons de construire et d'identifier quels seraient les auteurs des crimes les plus graves qui ont été commis dans la situation au Mali après janvier 2012. Donc cette enquête continue. Nous ne pouvons pas rentrer dans beaucoup de détails puisque les détails des enquêtes elles-mêmes sont confidentiels, mais nous pouvons vous assurer que l'enquête est en cours, que les enquêteurs font leur travail, que les substituts du procureur également et que nous travaillons assidûment afin d'identifier les auteurs des crimes. Comme vous le savez, la situation au Mali est compliquée. Il y a toujours un certain niveau de violence qui prévaut dans le nord du Mali, là où auraient eu lieu les incidents qui sont la priorité actuelle du bureau du procureur. Donc tout cela prend un petit peu de temps pour des raisons pratiques, des raisons habituelles et puis des raisons logistiques et de sécurité.
Le symposium des droits de l'homme se tient depuis ce matin au Centre international des conférences de Bamako. Durant deux jours, le département de la justice et les ONG de défense des droits de l'homme vont élaborer des stratégies afin de créer un cadre de confiance pour les victimes d'exactions lors des conflits dans le nord de notre pays. L'objectif est de rendre la justice aux victimes pour une réconciliation durable. Boya Dambélé, secrétaire général du ministère de la Justice, au micro de Nadège Dougnon.
Beaucoup de victimes parmi les femmes et les enfants pour une paix durable et pour une réconciliation que la justice transitionnelle puisse passer. Cela suppose qu'il y ait d'abord justice et qu'il y ait réparation avant qu'il y ait réconciliation. Au niveau du département de la justice, ce que nous pouvons faire, c'est défendre ces victimes-là, les recevoir et créer un cadre pour qu'ils puissent s'exprimer et pour mieux défendre ces victimes-là. Ils ont commis des crimes ou des délits graves et que ces délits-là ne peuvent pas rester impunis. Donc il faut créer l'abcès pour que vraiment il y ait une véritable réconciliation. Il y a une loi d'indemnisation des victimes qui a été votée en 2012. Le décret d'application de cette loi va être adopté en 2015.
Le premier ministre néerlandais Mark Rutte vient de boucler une visite de deux jours au Mali. Cette visite a permis aux deux pays de renforcer les liens d'amitié et de coopération. Au cours de la visite de Mark Rutte, le Royaume des Pays-Bas et le Mali ont signé une convention de 11 milliards de francs CFA dans le cadre du programme de développement durable du delta intérieur du Niger et du renforcement de la gestion des ressources en eau. Écho de nos régions à présent et direction Kidal où la MINUSMA vient de lancer un programme de financement de projets locaux appelé programme à impact rapide. Il va permettre à la population de proposer des projets et de bénéficier de financement. Le plafond de proposition de financement se limite à 25 millions de francs CFA. À Koutchala, plus de 90 agents recensaires s'initient aux techniques d'utilisation d'une nouvelle tablette pour le RAVEC. Le RAVEC, c'est le recensement administratif à vocation d'état civil. L'objectif est de doter ces agents en charge du RAVEC de connaissances utiles à la manipulation de ce nouvel appareil et de faciliter le travail de recensement. À terme, cette tablette remplacera le dispositif actuel de recensement. Une campagne dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes a été lancée ce matin à Kaye. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration du 10 décembre, marquant l'anniversaire de la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, organisée par l'Association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles. Cette campagne durera 16 jours. L'édition 2014 est placée sous le thème « La pêche, soit la paix dans le monde ». Trois communes de Banamba ont reçu ce matin des caisses d'outils de maintenance d'ouvrages hydrauliques. Il s'agit des villes de Banamba, de Boron et de Benkadi. La réception des matériels a été faite par les artisans réparateurs des pompes manuelles de ces localités. Ces outils devront assurer la remise en service des forages, permettant ainsi d'approvisionner les communautés en eau potable. Du sport pour boucler, la première journée du championnat national de football saison 2014-2015 a débuté hier à Mopti. L'AS Savannah de Medinakura Mopti et les 11 créateurs du Nyarela Bamako ont ouvert le bal avec 2 buts partout. Les buteurs sont respectivement Drissa Diawara contre son camp et Yakuba Diara côté créateur. Pour l'équipe locale, les buteurs sont Lassine Konta et Abdul Karim Traoré. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal qui vous a été présenté par Syria Batiri et la mise en onde des assuré par Nouhoum Djiré. Merci de l'avoir suivi, mais ne décrochez pas, tout à l'heure c'est l'émission Le Grand Dialogue avec son présentateur habituel Famoussa Silivé qui signe son grand retour. Famoussa, bonsoir.
Merci Syra, après avoir su tenir la maison, je suis là pour vous relayer. Et donc pour les 45 prochaines minutes, nous allons parler de l'utilité de la francophonie pour l'Afrique et pour cela, nous aurons comme invité Moustapha Diko, secrétaire général de l'antenne OIF ici au Mali, et Aminata Dramane Traoré, écrivaine et ancienne ministre également de la Culture. Elle sera là avec nous pour parler de cette organisation, Syra.
Un riche plateau. Merci, à tout à l'heure.
Merci.